municipaux pour ces 6 années de travail au service de la commune. Évidemment, la majorité municipale, mais également l'opposition. Je crois que sans opposition, on est moins bon. Et à ce titre, je vous remercie de nous avoir tout le temps challengé, mis sous pression. Quand on arrive au Conseil, on sait qu'on doit être préparé. C'est aussi ça que sert l'opposition. Je crois que ça a été des débats plutôt de bonne tenue pendant ces 6 années. J'espère qu'on ne va pas gâcher ces 6 années par un dernier conseil houleux, mais je ne le pense pas. En tout cas, merci à tous. Je remercie également évidemment les services, Delphine, Philippe, Anne, qui nous ont assistés pendant également toutes ces années de manière particulièrement efficace. C'est l'occasion de vous dire, pour cette mandature et ces 6 années, merci à tous et à l'ensemble des services qui sont aussi derrière vous, parce qu'un conseil municipal, ce n'est pas seulement les 3 personnes qui sont là, c'est tout le monde. Donc vraiment, merci à vous et je vais pouvoir procéder à l'appel. Vous avez remarqué que nous avons dressé un petit bar au fond de la salle. Et donc, pour ceux qui le souhaiteront à l'issue de ce conseil municipal, et j'invite également le public, si certains sont intéressés par un petit verre de mousseux, je sais que M. Martineau est intéressé, à boire un petit verre pour célébrer ce dernier conseil municipal. Mais je vous surveillerai, M. Martineau, un verre seulement. Hein, parce que je sais que vous rentrez en voiture à la campagne. Je ne voudrais pas être responsable d'un accident de la route. D'accord, très bien. Un jus d'orange, c'est noté. Je vais donc procéder à l'appel. Monsieur Olivier Bonduel est à pouvoir à Monsieur Marc Lerouzic. Madame Marie-France Martin-Magard. Monsieur Marc Lerouzic. Madame Christine Lamandé a donné un pouvoir à Madame Catherine Isoard. Monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Janine Le Golvan. Madame Françoise Le Pennec. Monsieur Charles Bietri. Madame Marie-Vonne Belleil. Monsieur Philippe Audeau. Madame Catherine Isoard. Monsieur Patrick Lotaudet. C'est pas encore envolé. Espérons que la compétition puisse se dérouler tranquillement dimanche. J'ai l'impression qu'ils vont, sûrement battre les records du circuit avec le vent qui va souffler. Hein? Bon, ok. Je m'en fous, je cours pas. Madame Christine Desjardins, Monsieur Michel Durand, Madame Morgane Petit, Monsieur Gérard Marc-Albert, Madame Karine Le Déveat, Monsieur Hervé Le Donnant, Madame Monique Thomas. Ah, pardon, excuse-moi, Monique, je ne t'avais pas entendu. Madame Armelle Moreau, Monsieur Jean-Luc Servet, Madame Nadine Rouet, Monsieur Pascal Lejean, Monsieur Loïc Coudois, Madame Sylvie Robineau, Monsieur Paul Chapelle et Olivier Lepic présent. Nous avons donc le quorum. Madame Le Pennec, vous acceptez d'être secrétaire de séance? Vous n'avez pas le choix, je vous en remercie. On va distribuer, je crois, un rapport légèrement modifié, celui de la VAP, puisque sous les conseils de la DDTM, nous avons légèrement modifié le texte que vous découvrirez, qui est très similaire à celui qui vous est proposé, mais par sécurité juridique et notamment sur l'intégration dans le nouveau PLU, la DDTM nous a conseillé une autre formulation. Je vous propose de passer donc à l'ordre du jour de ce dernier conseil municipal de la mandature avec, comme d'habitude, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 décembre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce procès-verbal? Pas de commentaires, il est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. On passe au compte-rendu des décisions du maire. Il ne vous aura pas échappé qu'elles sont numérotées de 148 à 163 pour les dernières décisions de l'exercice 2019. Et ensuite, en toute logique, de 1 à 7 pour les premières décisions de l'exercice 2020. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions du maire? Pas de questions. Je vous remercie. On passe immédiatement à la VAP, à l'approbation de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Carnac, valant site patrimonial remarquable. Vous savez que nous avons la propension en France à changer d'acronyme tous les 2-3 ans. Quand on a commencé ce process, je crois que c'était une ZPPAUP, c'est ça, non, Delphine? C'est devenu une AVAP et maintenant c'est une SPR. Donc, c'est à peu près le même contenu, heureusement. Je vais lancer Jean-Luc Servet nous exposer ce rapport.
Bonsoir à tous. Avant de lire ou de résumer le projet de délibération, je pense qu'il est important de souligner le travail long, extrêmement important, fastidieux et rigoureux qui a été mené par l'ensemble des personnes qui ont travaillé à ce dossier. Je pense notamment aux équipes municipales avec Anne et Sylvie et les personnels du service urbanisme notamment, mais je pense aussi aux élus, je pense aussi aux membres des commissions, aux personnes, membres d'associations ou individuels qui ont apporté à l'équipe qui a travaillé sur la VAP et au bureau d'études en particulier, leurs connaissances, leurs savoirs, leurs observations sur notre patrimoine local. Je pense que c'est un travail qui était extrêmement important et qui est fondamental pour l'avenir de notre commune, de nos sites, que ce soit dans les zones de centre-bourg ancien, de sites balnéaires ou de campagne. On est riche et c'était un peu le trou dans notre raquette d'outils d'urbanisme entre d'un côté un PLU et de l'autre côté des classements monuments historiques. Eh bien, il y avait un pan de notre patrimoine qui pouvait subir ou carrément disparaître sans que nous puissions agir. Donc c'est important, c'est un dossier qui va nous, un outil qui va nous permettre de protéger à des degrés divers selon la caractéristique du bâtiment, du site paysager ou du petit patrimoine, nos ensembles bâtis ou non bâtis. C'est pas interdire la construction, c'est pas interdire la modification, c'est l'encadrer. Donc ça, c'est vraiment important pour qu'on puisse transmettre nos patrimoines, nos paysages à nos générations futures. Ce sont des biens qui peuvent appartenir à des personnes, mais c'est surtout des biens qui nous appartiennent un peu à tous de par le coup d'œil qu'on a en se promenant dans nos sentiers, dans nos campagnes, dans nos arrières ruelles de bourg ou de plage. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment très important et merci à tous ceux qui ont œuvré à ce dossier qui a été initié dans le cadre de la dénomination AVAP à partir de 2016. Je vous propose de ne pas lire l'intégralité des vues, le code général des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'urbanisme, etc. Mais rappelez au moins la délibération du 24 juin 2016 qui approuve le PLU et du 24 septembre 2016 qui prescrit la VAP. L'arrêté du 14 janvier 2019 qui prescrit la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité PLU-AVAP. Bien entendu, on peut rappeler la commission d'enquête, ses conclusions et avis favorables en date du 16 septembre 2019. L'avis favorable de la CLAVAP du 8 novembre 2019. L'avis favorable de le valant accord du préfet du 23 janvier 2020. Qui amène à la présente délibération. Donc le maire rappelle que l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine est une servitude d'utilité publique dont l'objectif est de mettre en valeur et de protéger le patrimoine de Carnac par une réglementation plus précise en matière d'urbanisme que celle du PLU. Le dossier est constitué d'un rapport de présentation qui comprend le diagnostic du patrimoine architectural et paysager et les objectifs de protection et de mise en valeur des documents graphiques faisant apparaître le périmètre et les différents zonages et le règlement. L'étude a été conduite par le cabinet GECO en étroite collaboration avec l'architecte des bâtiments de France et la commune. La concertation, réunion avec les associations locales, mise en ligne des documents, mise à disposition du dossier et d'un cahier de remarques en mairie, exposition, article dans la presse, réunion publique, a permis d'enrichir le contenu et la rédaction des documents. La CLAVAP réunie à chaque étape de la procédure a validé l'ensemble des documents présentés. Le dossier arrêté a été transmis au PPA, la région Bretagne, le Pays d'Auray, la communauté de communes, ACTA, Morbihan Énergie ont fait parvenir des avis ou des remarques. Le dossier a été soumis à enquête publique du 1er juillet au 2 août 2019, a donné lieu à 58 dépositions écrites. je vous passe la répartition. La commission d'enquête a émis un avis favorable et la CLAVAP réunie le 8 novembre 2019 a voté à l'unanimité pour ce projet. Le dossier a été transmis pour accord au préfet qui a formulé un avis favorable. À son approbation, l'AVAP deviendra automatiquement et de plein droit un site patrimonial remarquable tout en conservant les mêmes documents constitutifs. Elle sera annexée au PLU en vigueur. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le dossier AVAP qui devient SPR tel qu'il est annexé à la présente délibération, d'approuver sa mise en compatibilité entre PLU et AVAP SPR tel qu'annexé, de dire que l'AVAP et SPR et la mise en compatibilité du PLU sont annexés au PLU en application de l'article L151-43 du Code de l'urbanisme et de faire procéder à un affichage de la présente délib assurant un délai d'un mois en mairie avec mention de cet affichage inséré dans un journal local et de faire tenir à la disposition du public les dossiers AVAP-SPR et mise en compatibilité du PLU approuvé à la mairie ainsi que sur le site de la internet de la collectivité.
Merci, Monsieur Servet. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Monsieur de Ripa.
Oui, il ne s'agit pas de remettre en question le travail du bureau d'études qui a été remarquable. Il y a un point sur lequel nous voulons revenir, c'est le cordon du nerf. Lors de l'enquête publique, il y a eu plusieurs interrogations sur la protection du cordon du nerf et sur la présence éventuelle d'un bar de plage. Pour répondre à ces interrogations, il a été décidé de mettre en place une zone de protection qu'on a dénommée PL. Et cette zone de protection a été divisée en deux sous-secteurs. Un secteur PLA sur lequel aucune construction n'est possible, toutes les constructions sont interdites, et un secteur PLB sur lequel, en effet, il est permis de construire, en particulier des buvettes, c'est précisé, et donc des bars de plage. Et nous pensons qu'il faut revenir sur ce point et qu'il faut protéger l'intégralité du cordon du nerf.
Parfait. C'est une position qui se respecte, qui n'est pas la nôtre, évidemment. On en a déjà discuté, mais j'entends bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette AVAP? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. C'est un beau symbole pour la commune. Je crois que si je devais, à titre personnel, retenir une chose de ce mandat, c'est cette AVAP qui va permettre de protéger dans la durée notre commune qui reste une commune assez authentique. Et il faut, malgré un certain nombre de dérives, donc on peut d'ailleurs questionner hein, cette loi Élan qui essaye de corriger un certain nombre de défauts de la loi Allure, ces OAP. Je pense qu'il faut vraiment malheureusement qu'on soit excessivement prudent dans la façon dont on veut protéger notre commune. Et la VAP sera un outil très utile. Donc merci à vous, je suis très sensible à cette unanimité. Monsieur Lejean, on passe à un sujet tout à fait différent, le casino, jeu de Carmac.
Tout à fait. Donc, c'est la nouvelle concession, enfin l'ancienne concession qui arrive à échéance le 20 juin 2020 pour une nouvelle concession à partir du 21 juin 2020. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la procédure parce qu'elle est assez longue. Hein, elle était engagée déjà à peu près depuis une année. Donc, aujourd'hui, juste un petit historique. Hein, le casino a démarré le 21 juin 2000. Il y avait une concession de 20 ans. Qui avait été donné au groupe Accor à l'époque, qui se termine avec le groupe Ardent, puisque les différentes modifications de l'actionnariat a eu lieu pendant le cours de ces 20 années. Le groupe Ardent, je vous rappelle, est un groupe originaire de Belgique, qui a aujourd'hui détient à peu près une petite dizaine de casinos sur la France et qui est rentré sur le marché français il y a maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il est tout simplement aujourd'hui sur les grandes lignes, c'est d'approuver effectivement le choix de l'entreprise du casino de Carnac, donc qui fait partie du groupe Ardent, en tant que concessionnaire du service public du casino, les termes du contrat de concession de service public et de ses annexes. Donc, je vous rappelle, juste c'est sur une DSP de 15 ans, avec différentes obligations derrière et sans modification des taux communaux. Derrière, qui avait été renégocié en partir de 2017. D'autoriser l'exécutif à signer le contrat de concession de service public avec l'associé du casino de Carnac, du groupe Ardent. vous rappelle que tous les rapports sont à votre disposition et qu'on a eu différentes réunions et que c'est passé plusieurs fois déjà en conseil municipal.
Il y a des questions ou des remarques sur ce rapport, monsieur Daripa?
Oui, une remarque concernant le contrat et l'activité de restauration. On impose 50% de plats faits maison. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas imposé comme restaurant scolaire 50% de bio?
C'est une délégation de service public, mais ce n'est pas une service public. Les clients du casino ne veulent pas forcément manger bio, donc il faut quand même laisser à l'opérateur la liberté de faire sa cuisine. Autant dans une cantine municipale, je conçois qu'on puisse avoir des ambitions en termes environnementaux. Là, c'est un opérateur privé. Donc,
Je pense qu'on peut avoir des ambitions sur l'ensemble de la commune. En ce qui concerne les ouvertures, on avait pour objectif d'ouvrir cette restauration 7 jours sur 7 pendant 6 mois. Et en fait, l'ouverture, elle se retrouve avec 6 jours sur 7 pendant 4 mois. Est-ce qu'on ne pouvait pas négocier un peu plus ?
La possibilité de, c'est juste, ce n'est pas une obligation. Le but, c'est que le restaurant soit ouvert 7 sur 7 pendant cette période-là. Aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a des problèmes de recrutement dans ce métier-là qui est un peu compliqué. Donc, on a laissé la possibilité de pouvoir effectivement fermer une journée, tout simplement, pour donner une journée de congé aux salariés.
Concernant les investissements, par rapport à l'objectif, on est quand même au-dessous. Par exemple, on avait prévu comme objectif d'investissement pour le renouvellement du matériel un minimum de 350 000 euros, on est descendu à 300 000. Et en ce qui concerne les investissements bâtimentaires, on est passé d'un objectif de 300 000 qui était fixé à 50% du loyer annuel. Pourquoi ce pourcentage sur le loyer annuel qui est de l'ordre de 400 000 euros, si je me souviens bien, et donc qui nous donne un investissement de 200 000 ou de 300 000?
Puisque le casino s'est engagé à baisser le loyer.
S'est engagé à
baisser le loyer. Le loyer dans le business plan est à 350 000 euros.
Mais alors, si vous baissez le loyer, vous baissez aussi le montant de l'investissement.
Tout à fait, tout à fait. Je vous rappelle que ce n'est pas le montant de l'investissement, c'est aussi le montant des amortissements. D'accord ? Donc, c'est pas spécifique. On peut avoir des investissements qui soient beaucoup plus lourds et sur le bâtiment, c'est ce qui va arriver automatiquement, puisque quand on va toucher au bâtiment, on aura des investissements beaucoup plus lourds. C'est un minimum d'amortissement sur les investissements qui seront faits, qu'on a demandé.
Pas d'autres questions ?
Par ailleurs, M. Dripper, vous avez tout à fait raison sur ces remarques, mais c'est une négociation globale et on a quand même réussi à ce qui n'était pas évident de départ à conserver les taux initiaux, et on a les taux les plus élevés. Donc c'est vrai que voilà, il y a eu une négociation globale sur beaucoup de points et il y a des points sur lesquels...
J'en suis parfaitement conscient, Monsieur le maire, d'autant plus que en fait, ce n'est pas une véritable concurrence puisqu'on avait un seul candidat.
Oui, et donc ?
Et donc, la négociation, en effet, n'est pas facile.
C'est exactement ce que je vous dis. Donc, quand on n'a eu qu'un seul candidat, c'est dommage qu'on n'en ait pas eu plus, mais je ne veux pas être tenu responsable du fait qu'il n'y ait un seul candidat dans cet appel d'offres. Parfait. Donc, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean sur l'exploitation des tennis de Beaumet à la signature du contrat de concession de service public.
Tout à fait. Donc, c'est une DSP pour une durée de 5 années. Donc, de concession des tennis de Beaumet située effectivement à Beaumet, en Pointe sur Chille, pour ceux qui connaissent, sachant qu'on avait fait quelques investissements à la demande de l'exploitant sur des produits nouveaux qui sont des paddle tennis. Il y a 2 ans, et donc c'était de renouveler effectivement la concession pour qu'ils puissent continuer aussi à investir sur le site des tennis.
Des questions ?
Je voulais simplement savoir si la taxe foncière qui va être désormais payée par le fermier, est-ce que la taxe foncière auparavant l'était ou pas ? Parce qu'en fait, on avait prévu une location de 25 000 euros. Et si j'ai bien compris, on a baissé à 21 000 euros, mais on fait payer la taxe foncière. On rajoute, c'est ça ?
Exactement.
Avant, si vous voulez, le concessionnaire avait un loyer et payait la taxe des ordures ménagères qui est sur la taxe foncière, qui est refacturée, mais que cette partie-là. On a repris tous les listings des taxes foncières qu'on a sur les bâtiments, parce que tous les bâtiments de la commune ne sont pas soumis à taxes foncières. La trésorerie était si bizarre que ça puisse paraître. Voilà, et donc il me paraissait plus logique, effectivement, de refacturer l'ensemble et donc de remettre sur le coût réel qu'on avait vu avec le prestataire.
Pas d'autres remarques ? On passe au vote. Je peux juste éteindre le micro. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Il y a des abstentions, unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, le bilan des cessions et des acquisitions de l'année 2009, c'est une obligation légale. Et donc, vous voyez le tableau. Je ne sais pas s'il y a des commentaires à faire en particulier.
Donc, il y a eu 10 acquisitions et une cession. Dans les 10 acquisitions, on a 4 acquisitions qui sont les terrains qu'on a achetés à Montauban-Bosséno pour faire un terrain pour les employés communaux qui en ont besoin pour mettre leurs matériaux et leur matériel au même endroit, alors qu'il faut courir un petit peu sur toute la commune pour récupérer tout ça, qui leur permettra justement de pouvoir prendre tout ce qu'ils ont besoin en partant le matin ou en revenant le soir, à midi ou le soir, plutôt que de courir des kilomètres sur toute la commune. Voilà, sinon après il y a eu une session, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, on a déjà parlé en commission de travaux, mais si vous voulez des informations, je peux vous les donner.
Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, donc on prend acte, hein, simplement, il n'y a pas de vote. Je vous remercie. Le dossier suivant est une cession pour le coup, puisqu'il s'agit de la cession de la parcelle BM170 qui est située 29 Allée des Alouettes, qui comporte également une autorisation de démolition. Donc il s'agit d'un projet de Bretagne Sud Habitat, hein, qui porte sur la construction de 15 logements locatifs sociaux, LLS intermédiaires et de 6 maisons individuelles en prêt social de location accession. PSLA sur l'ensemble des parcelles composées d'une parcelle appartenant à la commune et d'une superficie de 3076 m² et d'une parcelle déjà propriété de BSH. Et donc, il vous est proposé de céder la parcelle BM70 d'une superficie de 3100 m² appartenant à la commune pour la somme de 84 000 euros à Bretagne Sud Habitat et d'autoriser évidemment le maire non seulement à signer l'ensemble des pièces nécessaires à ce dossier, mais également l'ensemble des pièces relatives à ce dossier, y compris les demandes de subventions. Je crois que nous avons besoin de ce type de logement et c'est une opération qui est évidemment très importante pour la commune et c'est une opportunité assez intéressante. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Le Golvan ?
Oui, c'est vrai, on ne peut que se réjouir de répondre à la demande donc des personnes qui travaillent sur Carnac et qui veulent se loger sur Carnac. Par contre, ce que l'on regrette, c'est que donc, dans cette OAP, on prévoit donc la construction de 57 logements au mètre carré, à l'hectare, pardon, au mètre carré, à l'hectare. On regrette justement que le fait de construire ces 21 logements, ça représentera à peu près 175 mètres carrés et hors viabilisation. C'est un peu stigmatiser le Runel, le logement social. On peut comparer Césarine, c'est 50 logements à l'hectare et on aurait souhaité, vu le prix qui est concédé à Bretagne Sud Habitat, de demander en tout cas que ce soit plus aéré et qu'il y ait moins de logements de construits sur cette surface. Ça permettrait d'avoir, c'est vrai que le cadre en plus est près d'un lotissement privé, c'est fait près d'un bois. Je pense qu'on va regretter de retrouver l'image qu'on voit à Césarine.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Alors, 3 votes contre. D'accord. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie. Le rapport est adopté. Monsieur Lejean, demande de subvention DETR 2020.
Tout à fait. Donc, il est proposé que la commune sollicite une subvention DETR pour l'année 2020 pour fléché sur la construction et réhabilitation et l'optimisation des bâtiments communaux. Vous savez qu'on a récupéré quelques différents bâtiments communaux qu'on a besoin de faire des travaux dedans. Donc sur une dépense estimée à 745 920 euros et donc pour un montant de subventionnable à 47% dans la limite de 450 000 euros, donc pour une subvention potentielle de 211 500 euros et un autofinancement de la commune pour 534 420 euros. donc d'autoriser le maire et le conseil municipal délégué à engager les études et les autorisations administratives nécessaires à ces dossiers et de donner pouvoir au maire ou au conseil municipal délégué pour signer tout document relatif à ces dossiers.
En général, les demandes de subventions suscitent souvent l'unanimité. C'est le cas ce soir ? C'est le cas ce soir. Je vous remercie. Monsieur Oudois, rapport numéro 10 sur le contrat enfance-jeunesse 2019-2020.
Oui, alors au même titre que les autres communes d'Actail, vous est proposé donc de signer le contrat enfance-jeunesse pour une durée donc qui s'étale de 2019 à 2022 et non pas 2020 comme c'est inscrit dans le titre. Et donc c'est tout simplement ce qui nous permet de bénéficier des aides de la CAF pour tout ce qui concerne l'accueil périscolaire du matin et du soir, les mercredis, les vacances scolaires.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce contrat ? Pas de questions, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. On parlait tout à l'heure des nationales de cross, qui, nationaux de cross qui se dérouleront donc à Carnac. Et là, on a une subvention exceptionnelle. Monsieur Lotodé ne participera pas au vote, hein, je tiens à le préciser, parce qu'il est président du CIMA. Monsieur Lejean ?
Oui, donc comme c'est un événement qui a lieu sur l'année 2020, on ne pouvait pas l'inscrire au budget de 2019, donc c'est pour ça qu'on le fait passer en conseil municipal aujourd'hui pour une subvention qui a été demandée à la hauteur de 3 000 euros pour effectivement l'événement qui a lieu ce week-end.
Tenez, vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu l'événement, son importance, le nombre de participants, s'il est trop tard pour s'inscrire.
Oui, bien trop tard pour s'inscrire, ah, puisqu'il il fallait être qualifié issu des épreuves régionales. Donc il y a trois régions qui seront représentées, la Bretagne, la Basse et la Haute-Normandie. Ça représente 2000 coureurs et on espère vu la météo qu'on nous annonce, avoir à peu près autant de spectateurs. Voilà, et donc il y aura 11 courses de minime à senior, enfin même master. Et donc ça commence à 11h et la dernière course est à 16h. Voilà, et donc les qualifiés iront au championnat de France. Alors, le championnat de France, ce sera à Montauban, c'est dans le sud de la France, là, après Toulouse.
Non, parce qu'on a Montauban aussi, on
peut leur proposer. Ah oui, mais c'est pas le même. Ni Montauban de Bretagne. Ouais.
Tout le monde se souvient du Gugus de Montauban qui dormait pas, en fait, hein, dans les tontons flingueurs. Donc tout le monde sait où est Montauban.
Oui, alors les parkings, donc je ne sais pas si vous avez regardé dans la presse, les bus et les minibus seront garés le long de la route des Corrigans, hein, sur la voie de gauche. Donc la voie de droite sera libre pour les secours. Après, il y aura l'utilisation des parkings du marché, parking en herbe et parking de Saint-Michel. Et puis, pour les officiels, il y aura le parking du Collège des Corrigans. Et pour les bénévoles, on utilisera le parking de Kerabus et de Kermario, puisqu'il y aura plus de 250 bénévoles.
Pardon. Monsieur Lerouzic,
Ah oui, alors il n'y aura que deux coureurs carnacois, donc deux seniors. Une femme, c'est Chloé Korfmatt qui travaille à la médiathèque. Et puis Christophe Oliero. Également, enseigneur Crosselon.
J'ai cru que Paul, non, tu participes. Vous avez une question, je crois.
Oui, j'ai une question. Pour une telle épreuve, est-ce que vous avez l'accord ou les organisateurs ont l'accord des propriétaires pour une telle manifestation ?
Il faut demander ça à monsieur Lotodé.
Alors, j'ai l'accord des exploitants agricoles, enfin des monos. Voilà, je les ai.
Alors, les deux exploitants agricoles ont les terres à disposition, mais au nom de M. Paul Germain, Jocelyne Bédard, Sylvie Guézello et moi-même, c'est de la violation de propriété, là, puisque vous n'avez pas demandé l'autorisation. Alors, nous ne sommes pas contre cette manifestation, mais le plus simple, quand même, serait été de demander aux propriétaires, parce que ces terres sont liées à l'agriculture, et ces terres sont mises à disposition des agriculteurs en question. Et d'ailleurs, monsieur Stéphane Guézello vous a bien
Rosic,
dit...
Monsieur Lerouzic,
monsieur le maire.
Non, juste deux secondes, c'est pas au conseil municipal qu'il faut dire ça, c'est au président mais du CIMA qui est l'organisateur, nous n'y sommes pour rien.
Je suis ici en tant que conseil municipal, ouais. Le président du CIMA est présent autour de cette table, la mairie est co-gestionnaire de cette manifestation, puisque le matériel de la municipalité est sur le terrain. Je tiens quand même, nous allons donner une subvention de 3 000 €, donc je tiens quand même le stipuler, que les propriétaires sont quand même un peu vexés qu'une telle manifestation qui dépasse le cas de l'agriculture, puisque nous sommes dans une autre catégorie quand même, ce n'est pas lié à l'agriculture, comme le comice, que la manifestation se produise sur leur parcelle. Je les ai rencontrés parce qu'ils sont venus vers moi et ils vous disent leur mécontentement. Il aurait été quand même plus simple de leur demander l'autorisation, ils n'auraient jamais refusé, mais ils se sentent vexés.
Monsieur Autodé,
je suis surpris de votre remarque, et parce que, enfin, moi, je ne sais pas, j'ai contacté, je vous dis, hein, les exploitants agricoles, ils ne m'ont pas dit qu'il fallait que je contacte les propriétaires.
Stéphane Guézelo t'a répondu, j'ai qu'une petite surface dans cette zone, il faut voir les propriétaires, il les a nommés, je l'ai eu ce matin pour bien savoir ce qu'il avait dit, pour bien connaître ce qu'il avait dit, donc je vous informe.
Oui, moi, c'est possible qu'il m'ait dit, mais enfin voilà, si j'avais dû contacter les propriétaires, enfin je l'aurais fait, Marc, je comprends pas.
Il a donné la liste, hein, il a donné la liste. Et moi, je la redonne, et encore, je ne cite
pas tout le monde. Monsieur Lerouzic, le point est fait, je pense que si monsieur Le Taudé a fait une erreur, il s'en excusera, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la peine de hausser le ton.
Je pense que le mieux, c'est de s'excuser auprès des propriétaires, donc tu peux reprendre la liste.
Monsieur Lerouzic, c'est ce qu'il va faire, c'est bon, c'est pas une affaire d'État, c'est effectivement une boulette. Monsieur Le Taudé s'en expliquera auprès des propriétaires, mais voilà, ce n'est pas l'affaire Dreyfus non plus. Ce n'est pas la peine de prendre ce ton, Marc.
Mais on peut quand même bien marquer les choses, parce que c'est quand même une violation de propriété.
Oui, ça
peut aller très loin, quand même.
Tu l'as fait. C'est bon ?
Voilà, c'est très bon.
Oui, voilà.
Mais je tiens le stipulé.
Vote de la subvention. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Parfait. Et le reste est pour. Je vous remercie. On passe maintenant au rapport numéro 12, syndicat départemental d'énergie du Morbihan. Monsieur Marc Albert.
Pardon. Il est nécessaire de procéder à une signature de la convention proposée par Morbihan Énergie pour fixer les conditions techniques de géodétection des réseaux enterrés d'éclairage public catégorisés comme sensibles afin de pouvoir les positionner selon les précisions dites de classe A. C'est-à-dire que maintenant, quand on a des DICT, que les entreprises font des travaux sur la commune de Carnac, on doit leur donner les informations à 20 à 30 cm près pour savoir où sont ces réseaux-là. Donc, Morbihan Énergie a lancé un marché départemental pour justement que toutes les communes puissent se mettre à jour. La loi disait qu'on devait être prêt à partir du 1er janvier 2020. Donc on est un petit peu en retard, mais on n'est pas les seuls, heureusement ou malheureusement. Donc on a signé cette convention pour 25 000 € TTC, qui nous permettra, lorsque les entreprises demanderont des DICT, de pouvoir leur donner précisément les réseaux qui nous appartiennent. Et chaque propriétaire de réseau sur la commune, que ce soit ACTA ou autre, a l'obligation de faire la même chose. Et comme les DICT passent dans toutes les entreprises ou les mairies qui ont des réseaux souterrains, comme ça permettra de moins faire de casse peut-être comme le gaz ou autre chose. Donc voilà.
Il y a des questions, des commentaires sur ce rapport ? J'imagine qu'il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. On passe au rapport suivant, toujours sur le syndicat départemental d'énergie du Morbihan, l'extension du réseau d'éclairage, monsieur Marc Albert.
C'est une convention qu'on a signée pour l'éclairage du puits. Qui est devant l'église, je pense que tout le monde a entendu parler longuement ou largement. C'est un montant de 2 540 € hors taxe, avec une TVA de 580 pour 3 120 € TTC. On va faire les branchements et que Morbihan Énergie nous suive comme tous les endroits où on a fait des enfouissements de réseau, des extensions de réseau avec eux.
Sachant que l'objectif est de mettre en valeur ce puits qu'on a découvert, qu'on a redécouvert, parce qu'il n'était pas si ancien que ça. On croyait qu'il datait de l'église, mais en fait, il date du début du XXe siècle, puisqu'il a été voté en conseil, dans ce conseil municipal en 1899, le creusement du puits, puisqu'il n'y avait pas, certains étés, il n'y avait pas d'eau pour les habitants du bourg. Et donc, le conseil municipal en 1899 a décidé de la... de la construction de ce puits qui a été réalisé en 1902 et jusqu'à l'entrée en vigueur, jusqu'à Carloquet, jusqu'à ce que la réserve d'eau et l'eau courante soient répandues dans Carnac. Il y avait une pompe à main à cet endroit. Et puis aujourd'hui, donc, en faisant les travaux, on a redécouvert ce puits que les anciens, je pense, connaissaient l'existence. Et donc, on va mettre une vitre avec une lumière à l'intérieur parce que la cavité maçonnée à l'intérieur est vraiment magnifique. Et il y a une eau totalement cristalline et transparente. Et ça fera, je pense, le soir, quelque chose d'assez joli. Donc, voilà d'où la subvention demandée pour cette mise en lumière. J'imagine là aussi qu'unanimité pour cette demande de subvention. Je vous remercie. Toujours Monsieur Marc Albert, l'adhésion à Morbihan Énergie et transfert de compétences du réseau éclairage public.
La loi relative à la transmission énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a introduit la création de commissions consultatives entre tous les syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le périmètre du syndicat. Depuis décembre 2015, la commission consultative instituée par Morbihan Énergie a permis d'impulser des approches coordonnées avec ACTA au rééquilibrage énergétique dans le domaine de la transition énergétique et de la transformation énergétique et numérique. Et donc, cela permet justement à ACTA de pouvoir, on peut les aider justement pour les aires d'accueil des gens du voyage, pour les voiries d'intérêt communautaire telles que prévues dans l'article 7 des statuts de la communauté de communes du 16 mai 2019 par délibération du conseil communautaire. Et Belsky-Borne-Terre Atlantique propose de transférer cette compétence à Morbihan Énergie au titre de sa compétence de caractère optionnel de l'éclairage public. Voilà.
Sur ce rapport, unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Chapelle, le rapport numéro 15 sur le personnel communal, modification des tableaux d'effectifs.
Oh, SVP. Merci. Comme à chaque fois qu'il y a un départ en retraite ou un changement de cadre d'emploi, il est nécessaire donc de procéder à la modification du tableau des effectifs. Je ne veux pas lire tous les considérants. Ceux qui sont intéressants ici, c'est le quatrième signifie que la modification du tableau des effectifs est due à diverses raisons, notamment le départ de 3 agents à la retraite et la nécessité de transmettre les savoirs. Ici, il s'agit d'assurer pendant une certaine période transitoire d'avoir 2 postes de plombier et d'électricien au centre technique le temps que les 2 agents titulaires partent à la retraite. Voilà. Même si c'est pour une courte période, si on n'a qu'un seul cadre d'emploi qui prévoit par exemple un plombier, on doit en créer 2, ne serait-ce que pendant un certain temps, pour pouvoir avoir le poste qui correspond au cadre d'emploi. Voilà.
Des commentaires sur ce rapport ? Pas de commentaires. Bravo, Monsieur Chapelle. Donc, unanimité, j'imagine. Je vous remercie. On passe au dernier rapport de ce conseil municipal, donc sur une charte qui a été initiée par le ministère de l'Environnement, puisqu'un appel a été lancé par la ministre sur une initiative qui s'appelle le plage sans déchets plastiques, initiative qui s'adresse à l'ensemble des communes balnéaires et françaises. Et nous avons souhaité donc s'engager aux côtés du ministère dans cette initiative qui comporte un certain nombre de paliers, c'est-à-dire que vous avez 3 paliers. Un premier palier où vous vous engagez à faire un certain nombre d'initiatives et en augmentant évidemment les engagements, vous franchissez les paliers et vous pouvez arriver au palier 3 avec 15 engagements. Aujourd'hui, ces 15 engagements sont proposés dans 3 domaines, la sensibilisation, la prévention et le nettoyage. On fait déjà un certain nombre de choses et il serait bon dans l'avenir que nous continuions à s'engager dans cette voie, sachant que nous respectons déjà 5 engagements sur les 15 prévus par cette convention, et donc nous sommes déjà au niveau 1 de cette convention zéro plastique. Je pense que c'est le sens de l'histoire, et j'imagine que les municipalités suivantes bien s'engageront peut-être de manière encore plus volontariste pour essayer de remplir l'ensemble des 15 engagements. Mais à ce stade, je vous demande donc d'autoriser donc le maire à signer cette charte une plage sans déchets plastiques, et puis peut-être eh bien, à continuer dans cette voie pour faire de Carnac une station exemplaire en matière d'environnement et surtout de plastique dont on sait qu'ils sont une source importante de pollution marine, ici comme ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions sur cette charte ? Philippe ?
Ouais, juste une remarque, monsieur le maire. Moi, je voulais souligner l'excellent travail qui est fait par certaines associations. Je soulignerai le travail qui était fait et qui est fait par l'association Les Mains dans le Sable. Par exemple, le 17 juin 2019, l'association a organisé sur Carnac en fait, le nettoyage des plages de la pointe de Saint-Colomban jusqu'au pot. Un point important, les ostréiculteurs étaient associés, ils étaient six professionnels présents. Et il y avait également le président du syndicat ostréicole de la baie de Ploirmel-Carnac qui était présent. Le bilan en 2-3 chiffres, il y avait environ 70 personnes, 26 carnacois. Et le bilan, à mon sens le plus parlant, il y a quasiment eu 250 kg de déchets de toutes sortes qui ont été récoltés. 86 kg de métal, 35 kg de gravats, 2 kg de déchets recyclables. Voilà, c'était un point important pour moi. Parce qu'il y a des associations qui font un super travail et je pense qu'il faut le souligner.
Et j'y étais d'ailleurs, Philippe, aussi, qui imagine même pas ce qu'on a pu trouver parfois sous de la végétation bien cachée, une carcasse de voiture, des pneus, c'est hallucinant ce qu'il y avait au fond de l'anse du pot. Je pense que pendant longtemps, ça a été un peu une décharge à ciel ouvert de beaucoup, et je pense que le nettoyage, et d'ailleurs les services communaux sont intervenus pour enlever un certain nombre de déchets trop importants parce que les volontaires de l'association... Vous pouvez pas le faire. Donc non, c'est. Je pense aussi à la Soft Rider Foundation qui fait aussi des choses, pas forcément à Carnac, mais à Erdeven. Ouais. Il y a beaucoup d'associations qui font des choses vraiment très bien. Et je vous incite à participer parce que Les Mains dans le Sable organise des collectes un peu partout dans le Morbihan et c'est vraiment une action remarquable. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette signature de la charte Une plage sans déchets plastiques ? Madame Baga,
ben, je pense qu'il faudrait y retourner parce que je me suis promenée il n'y a pas très longtemps. Et après, quand on prend la direction de la pointe du Gourec sur la droite, sur des terrains ostréicoles.
Beaucoup de travail dans cette
énormément zone. C'est, franchement.
Après, il y a un problème d'accessibilité pour certains déchets, c'est-à-dire que.
Oui, mais j'y suis allée à pied qu'on avait sans eu. Problème. Hein. J'étais surprise.
Je parle du problème d'accessibilité. Quand on a des déchets lourds, les services communaux viennent avec un tracteur et parfois on ne peut pas aller jusqu'aux déchets parce qu'en fait le sol est tellement mou et vaseux qu'ils avaient failli s'enliser d'ailleurs pour retirer une voiture à cet endroit-là. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
J'insiste quand même sur un point. Les ostréiculteurs qui étaient présents ont fait preuve de pédagogie, ont expliqué leurs impératifs, que certaines fois ils n'avaient pas toujours le choix que d'utiliser d'autres produits. Donc ils sont conscients, ils étaient présents. Donc je pense que c'est vraiment important de le souligner. Et bon, après, il y a des tempêtes, il y a un certain nombre de choses qui font que c'est un travail de longue haleine.
Alors, est-ce qu'il y a des votes contre la signature de cette charte ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On terminera donc cette mandature et ce dernier conseil municipal par une unanimité sur une belle cause. Je vous remercie. Passez un bon week-end. Mais avant, nous allons tous surveiller M. Martineau, boire son jus d'orange, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, auprès du bar qui est dressé à la fin du conseil. Merci à tous.